RMC.
GG, 7 et match.
GG, 7 et match, nous sommes en guerre, guerre climatique, il suffit de réécouter le président de la République.
Nous sommes en guerre, c'est un état de fait. L'énergie fait partie des instruments de guerre utilisés par la Russie. Et donc, nous devons absolument nous mettre en situation de produire plus vite des sources alternatives d'électricité. Aujourd'hui, nos rythmes quant aux travaux pour permettre les capacités de production en renouvelable ou en nucléaire montrent que nos projets sont trop lents. Et donc, face au défi qui est le nôtre aujourd'hui, on doit aller beaucoup plus vite dans la production de ces énergies renouvelables.
Est-ce que c'est comme musique ?
Terminator.
Alors, est-ce qu'effectivement, nous sommes en guerre ?
Emmanuel Macron, c'est Sarah O'Connor.
Et Emmanuel Macron a-t-il raison de parler de guerre énergétique, d'employer cette expression ? Équipe non, Didier Cauter. Équipe oui, Jean-Baptiste et Olivier. La parole à l'équipe oui, Jean-Baptiste Djebari. Une minute pour défendre le point de vue.
Il a évidemment raison. D'abord, il faut rappeler qu'il y a toujours une concurrence extrêmement forte sur les ressources énergétiques. Je rappelle même qu'on a créé l'Union européenne pour produire l'acier en commun et s'éviter la guerre. Donc, on a toujours été dans ce sujet guerre et paix. Deuxièmement, on est dans un monde qui est géopolitiquement hyper déstabilisé. C'est la Chine, les US, l'OTAN, la Russie. La Russie, le président le rappelait, utilise l'énergie comme une arme de guerre pour déstabiliser l'Europe, son économie, ses populations, éventuellement susciter des révoltes. Et donc le président a raison d'employer ce terme et de se dire qu'on va se doter des contre-mesures pour amortir l'effet de la guerre énergétique que nous fait la Russie ou que fait la Russie à l'Europe et in fine essayer de retrouver une voie diplomatique mais en ayant mené ce rapport de force. Le président a raison, c'est bien une guerre sur l'énergie qui s'exerce actuellement en Europe et dans le monde.
Je crois que c'est la première fois que quelqu'un termine avec 15 secondes d'avance. Non. D'habitude, c'est 50 secondes
c'est
de retard.
Vous, les gars. On vous offre.
Là, c'est 15 secondes d'avance.
Parce que vous manquez d'arguments, tout
pour
simplement.
Jean-Baptiste Djebari. Allez, on y va. La réponse. Qui s'y colle ? Cauter ou Didier ? Go.
Écoute, moi, je constate le danger qu'il peut y avoir autour de l'énergie. Mais j'en ai marre qu'on utilise le mot guerre à toutes les sauces. On était en guerre contre le Covid. On est en guerre contre l'Ukraine. On est en guerre. Enfin, voilà. À force de prendre cette position.
Oui, avec mais on n'est pas en guerre.
D'ailleurs, et je pense qu'à force d'utiliser cette position de Dux Bellorum, là, qu'il fait paraître aux yeux de l'opinion, Dux Bellorum, chef de guerre, oui, en latin, c'est quelque chose qui... Tu vois, c'est cette position qu'il a portée au nu, il en abuse trop. Et la thématique guerrière, elle est réservée à la guerre, la vraie guerre, quand il y a des gens qui meurent. Et je c'est trouve qu'extrapoler cet excès de langage, ça a un côté... Enfin, tu vois, les gens, ils y prêtent pas autant d'intérêt. Oui, le contexte autour de l'énergie, il est hyper anxiogène et il faut faire hyper gaffe à ce qu'on fait et il y a des solutions à trouver. Mais en même temps, je pense qu'il va y avoir concurrence dans notre pays demain entre la production d'énergie et l'alimentation. Parce que la production d'énergie, elle consomme aussi du territoire. Et demain matin, il y a un enjeu autour de l'alimentation et de l'indépendance alimentaire. Où là, pour moi, c'est plus une arme encore
mais
que la production
modernes,
d'énergie.
C'est pas que les guerres militaires. Les guerres modernes, c'est l'information.
On est d'accord.
C'est le cyber.
Je pense que c'est contre-productif de toujours utiliser ce champ lexical autour de la guerre. Une posture d'un chef d'État. Voilà.
Oui, mais là, on sera sans doute d'accord. Mais autant pour le Covid, effectivement, le terme de guerre semblait complètement à côté de la plaque. Autant là, c'est factuel. C'est-à-dire qu'on a face à nous un président
quelqu'un
russe
qui nous fait la guerre.
On a un président russe qui utilise ses ressources comme outil, comme arme de guerre. D'ailleurs, il y a des films de propagande. Je vais parler. Des films de propagande où les Russes sont en train d'expliquer que l'hiver va être terrible pour les Européens qui vont se révolter parce que justement, c'est leur propagande guerrière. Nous avons du gaz, vous en voulez plus. Eh bien, vous allez en subir les conséquences. Donc, il a raison de dire qu'il y a une guerre énergétique. Et il faut reconnaître que on s'est tiré des balles dans le pied parce que sur le nucléaire, mais ça on l'a dit souvent, on a pris de mauvaises décisions et le président Macron en partie. On n'a pas non plus, on est peut-être pêché par naïveté parce que nous en France, on ne croyait pas à l'invasion de l'Ukraine avec les Allemands. On était persuadé que ça se ferait pas, alors que les Américains nous disaient si, Poutine est en train de s'organiser. Là aussi, il y a eu un échec, d'Emmanuel Macron. Il faut le reconnaître
mais ça,
aussi.
C'est la vraie guerre.
Voilà. Donc, mais on est dans une guerre. Alors, on est plutôt en ce moment en train d'accumuler un peu les défaites. J'espère qu'on va en gagner quelques quelques-unes aussi. On nous dit qu'à un moment donné, les sanctions contre la Russie vont payer. Pour l'instant, on voit pas grand-chose. On espère qu'un jour, ça va payer et que ça permettra peut-être à Poutine de se mettre autour de la table des négociations. Et quand on aide l'Ukraine, bien sûr qu'on n'est pas directement en guerre contre la Russie, mais quand on donne des armes à des Ukrainiens pour que ces Ukrainiens se battent contre les Russes, pardon, mais on fait la guerre, on fait la guerre indirecte.
Non, mais
le terme de guerre est tout à fait approprié.
Non, on fait pas la guerre. Quand on soutient... Les pays occidentaux ont toujours soutenu des pays d'ailleurs qui étaient en guerre. On n'a pas commencé avec l'Ukraine.
Oui, ben on faisait la guerre
en 2014.
Par peuple
Poutine,
interposé.
Poutine a déjà fait l'invasion de l'Ukraine, etc., etc.
La Crimée.
Donc ça n'a pas marché. Lui, il s'est préparé à faire la guerre. Pendant que nous, on joue au bisounours à faire des polémiques sur rien et surtout dans notre pays. Quand on utilise le mot guerre, ça veut dire, il n'y a pas de bombes chez nous, fort heureusement.
Mais la guerre, ce n'est pas forcément des bombes.
Oui, non, mais quand tu dis qu'on n'est pas en guerre.
La guerre, elle peut être informatique, elle peut être.
Vas-y, fais le débat social. On n'est pas en guerre. On devrait être en guerre sur l'énergie et on devrait, c'était déjà un pré-débat entre Anaïs et moi hier, et on devrait être en guerre sur la question de l'environnement et du climat tout court. Mais aujourd'hui, on ne se donne pas les moyens d'être en guerre et de gagner cette guerre.
On est dans aucune méthode. Un truc très carboné, Kauter, c'est la guerre. Il y a un truc qui est très carboné. Et quand tu n'as pas de paix, quand tu es en guerre, tu ne fais pas la lutte contre le climat. Donc tu vois, la condition...
Non mais ça fait 6 mois qu'il y a la guerre. Ça fait 6 mois qu'il y a la guerre. C'est son deuxième mandat. Et je rappelle qu'avant ça, il était déjà dans le gouvernement, même s'il n'était pas responsable des affaires étrangères, etc., ni ministère de l'armée. Il était déjà dans le gouvernement de Hollande. 2014, c'était pas lui le président, c'était Hollande. Donc à un moment donné, faire comme si on découvrait ça aujourd'hui, alors qu'en face, ça fait presque 10 ans qu'il se prépare, faut qu'on arrête le monde des bisounours. Tu vois ce que je veux te dire?
La vraie différence, si on parle vraiment de la guerre militaire, c'est que l'Europe a organisé la paix et que les décideurs... ont vécu ce qu'on appelle les dividendes de la paix et qu'on pensait des conflits un peu asymétriques, le terrorisme, la guerre lointaine, des régions qui étaient déstabilisées. On pensait plus la guerre en Europe.
Donc on a baissé la
guerre. La guerre, c'est ce que je te dis. La guerre énergétique, parce qu'il m'a coupé, je vous ai laissé parler. La guerre énergétique, elle a été organisée aussi par Poutine.
Non mais c'est pas toi qui distribue la parole.
Oui, mais j'ai pas fini, il m'a coupé.
Tu disais, les gouvernants, les politiques n'ont pas organisé. Simplement, je pense que effectivement, on a pensé collectivement qu'en Europe, la paix, c'était la paix pour longtemps, pour toujours. Et on pensait des guerres distantes, des guerres par proxy, des guerres informatiques, des guerres avec des cyberattaques, etc. Et plus les guerres de haute intensité.
Non, le retour de la guerre.
Le retour de la guerre.
Du 20e siècle.
Du 20e siècle, avec de l'artillerie.
Des chars.
Pendant longtemps, avec des positions qui sont fixées pendant des années. Et c'est ça, en fait, qui choque tout le monde en Europe. Et c'est là-dessus... sur le plan militaire, que tout le monde doit se renforcer. Regarde ce que fait l'Allemagne. L'Allemagne met 100 milliards se remilitariser.
Est-ce que ça qualifie du coup la partie énergétique de guerre? Parce que
l'énergie en tant que telle est utilisée comme une arme de guerre.
On peut s'entendre sur le fait que ça s'appelle guerre, si vous voulez.
Bon, alors finalement, t'es d'accord avec nous.
Non, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, le fond du problème, c'est quand même nous qui avons aussi créé cette...
On a créé notre fragilité.
Non, c'est pas ça. C'est parce qu'on n'a pas assumé des mecs, quoi. Parce que l'Europe n'ayant plus d'armée, mecs en Ukraine, on va combattre en Ukraine. Et aujourd'hui, c'est parce qu'on est des couilles molles sur le combat qu'on a pris des mesures contre Poutine qui nous fait une guerre énergétique.
Non, ça c'est pas responsable. T'as deux puissances nucléaires. Tu sais ce que c'est quand même une bombe nucléaire, quand même pour que les gens aient une idée. Rappelez-vous l'explosion de Beyrouth.
Oui.
Beyrouth, ça a quand même fait du dégât, quoi. Beyrouth, c'est 20 fois moins qu'Hiroshima. Et la plus petite bombe nucléaire qu'on a aujourd'hui, c'est 20 fois Hiroshima, en gros. Donc, il faut t'imaginer qu'un conflit où tu mets deux puissances nucléaires et tu commences réellement à être belligérant face à face, le risque, c'est quand même qu'à un moment, t'as des bombes qui partent, que tout le monde.
Alors, on continue la discussion. Attendez, on continue la discussion. Aujourd'hui, on continue la discussion dans un instant. Le temps de passer par la consultation, voir si le président a raison d'employer le terme de guerre pour parler de cette crise énergétique, oui ou non. C'est un non à 86% en faveur de Didier et de Kauter. Et la discussion continue.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules suite de la discussion autour de ces termes de guerre employés de nouveau par le président de la République dans le contexte que l'on connaît, le contexte de bras de fer énergétique. Et je vous conseille d'aller voir d'ailleurs le clip qui a été mis sur les réseaux sociaux par la société Gazprom, où Gazprom nous promet le froid. Enfin, ils promettent le froid et le crépuscule à l'Europe avec une musique
des ténèbres qui nous
envoient. Alors, de guerre.
Est-ce que oui ou non, il faut employer ce terme de guerre énergétique? Gérald, bonjour.
Oui, bonjour à tous.
Alors, on a l'équipe oui pour Olivier et Jean-Baptiste, non pour Kauter et Didier. Quelle est votre équipe alors?
Kauter et Didier.
Non, on ne doit pas parler de guerre. Pourquoi?
Non, parce que en fait, aujourd'hui, Macron utilise le même récit qu'il faisait avec le Covid, en utilisant les mêmes rhétoriques, comme la guerre, par exemple. Il cristallise un climat anxiogène auprès des Français, afin de nous mettre au pied du mur, et en fait, de nous responsabiliser sur l'utilisation de l'énergie qu'on va avoir peut-être dans les mois qui vont suivre, en nous chauffant, évidemment, qu'à 19 degrés dans la maison. J'ai hâte de voir, en fait, s'il y aura un contrôle là-dessus, s'il y aura une police énergétique qui va venir chez nous pour prendre les températures. Ça, on en reste là pour l'instant.
J'y pense.
Voilà, vous voyez. Voilà.
Et selon quel aujourd'hui,
si nous en sommes là aujourd'hui, c'est à cause des décisions politiques, ni plus ni moins, des décisions politiques françaises et européennes. Si la France aujourd'hui ne dépend pas de la Russie sur le gaz ou n'en dépend qu'à hauteur de 15%, qu'en est-il devenu de notre pays sur notre souveraineté énergétique? On avait une technologie de pointe avec des ingénieurs compétents et Macron s'en est tout simplement débarrassé en les revendant à General Electric et vous connaissez l'histoire avec Alstom et les turbines Mirabel, etc.
Ah, ben
et aujourd'hui, si le manque énergétique est aujourd'hui en France comme ça, c'est à cause de lui, c'est à cause de la politique française telle qu'elle est depuis ces 10 dernières années. Pourquoi on a fermé nos centrales électriques et on met tout sur le dos en fait du PDG qui entre guillemets avait toujours suivi Macron sur la fermeture en fait des centrales électriques.
Donc en fait, vous dites pour résumer votre raisonnement, Gérald, vous dites c'est gonflé de dire qu'on est en guerre alors qu'on s'est nous-mêmes désarmés quoi en fait.
Mais
c'est
carrément.
Ça.
Qui c'est qui a mis des sanctions à la Russie? C'est l'Europe. Qui ne veut pas payer en fait le gaz?
Il fallait pas sanctionner la Russie.
Il fallait abandonner l'Ukraine.
Soyez plus intelligents que ça. Regardez ce que fait par exemple l'Espagne. L'Espagne, eux, ont choisi d'avoir plus une souveraineté énergétique.
Ils ont voté les sanctions russes sur l'électricité.
Donc du coup, nous, on est en 630 euros à peu près kilowattheure. Eux, ils en sont trois fois moins chers avec des décisions politiques qu'eux-mêmes ont prises. Voilà, et donc eux, ils ont pas de problème.
C'est pas la question. Les Espagnols ont voté les sanctions contre la Russie.
Non, mais si on est en guerre, les garçons,
Oui, mais aujourd'hui, ils n'en sont pas touchés.
L'État doit prendre des mesures pour protéger les Français. Et moi, quand je lis. Si cette étape de sobriété volontaire ne fonctionnait pas, alors son gouvernement pourrait passer à la contrainte énergétique. Et si ces contraintes ne suffisent pas, alors la France passerait au plan de rationnement. C'est ça le plan de guerre, en fait? C'est comme ça que tu protèges les Français. Qu'est-ce que tu fais, en fait, à part vouloir, tu vois, toujours contrôler ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, ce qu'on mange, ce qu'on mange pas? À quel moment on se prépare comme s'est préparé
Poutine?
Tu fais quoi?
Parce que si à un moment t'as effectivement un blackout, t'as plus assez d'énergie pour alimenter les bâtiments publics, les hôpitaux, tu fais quoi? T'attends en fait que ça arrive et tu dis ah bah j'ai pas anticipé. Il vaut mieux quand même être assez lucide sur l'état du moment, se dire en hiver il y a des paramètres, il peut faire froid, il peut faire chaud, on peut avoir du gaz et pas du. Enfin, et puis se dire c'est quoi le scénario du pire? Et donc du coup dans le cas du scénario du pire, s'il venait à advenir, eh ben je ferais ça.
Je peux te poser une question.
C'est le problème, ouais, c'est le boulot du politique, mais moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est que la ficelle, et Gérald l'a très bien dit, la ficelle, on la connaît, c'est la ficelle du Covid, où on te prépare au pire.
Moi, je crois que c'est pas du tout de la même nature.
Pour te faire accepter des contraintes.
Moi, j'entends l'argument sur la rhétorique du Covid, mais je crois que c'est pas du tout la même nature.
Il a fait une erreur d'utiliser le terme guerre pendant le Covid, ça.
C'est la même chose. On te prépare début septembre au pire pour cet hiver. C'est la guerre, on te prépare au pire. Et comme ça, tu vas accepter un peu moins de contraintes.
Je comprends cette critique-là rhétorique, mais en l'occurrence, sur l'énergie, ce qu'on vit actuellement, effectivement, il y a une forme de guerre pour l'énergie, et c'est utilisé comme une arme de guerre par Poutine à l'égard des Européens.
C'est une réalité, ça.
Que nous sommes un peuple décadent, qu'on n'a pas de je ne sais quoi, et qu'on va se coucher, et qu'on va livrer l'Ukraine pour se garder, en gros, un hiver pas trop mal, un peu de gaz russe, et des
peuples pacifiques. La guerre, c'est se battre.
Je comprends, t'es contradictoire parce que si on se couchait, on aurait dit bon ben très bien, tant pis, on laisse l'Ukraine à Poutine et on continue d'acheter du gaz russe comme le font les Allemands depuis des années. Et les Allemands, il faut reconnaître, ont décidé de dire ben non, on se passera du gaz russe. Et pour eux, c'est très compliqué. Après, il y a des régions comme la Bavière, région économique forte, qui dépendent vraiment beaucoup du gaz parce que on dit non à cette invasion. Donc tu peux pas dire qu'on s'est couché. Ben, alors après, on peut aller plus loin comme le suggérait Didier, envoyer des soldats. Mais enfin, là, effectivement.
Alors merci à Gérald.
Mais tu peux pas vraiment. On peut pas reprocher tout son contraire à ceux qui nous gouvernent. Là, ils se sont pas couchés. Et le fait de pas se coucher, pour l'instant, c'est vrai que ça nous revient un peu dans la figure. Voilà, ça c'est sûr.
Et Kauter, merci. La guerre, c'est l'affrontement de volonté, c'est l'exercice du rapport de force.
Oui.
À la fin, quand tu as du rapport de force.
Mais nous, on n'a pas de rapport de force.
Mais si, mais c'est le même.
Bien sûr qu'on en a.
Pour l'instant, on a plus.
On a quoi à mettre sur la table, concrètement? On le subit pour l'instant. On a quoi?
Poutine, il pensait être.
C'est comme si on allait faire un bras de fer. On a quoi en fait?
Poutine,
tu as voulu que Kiev soit russe, quoi, en fait.
Non mais.
Poutine, enfin,
je peux être à un moment donné, excuse-moi, pourtant j'ai pris position pour l'Ukraine, etc. Mais il n'y a pas que la guerre en Ukraine. Il y a la guerre en Syrie, il y a la guerre partout.
Eh bien, Poutine est en train de gagner la bataille.
Mais je suis en train de dire qu'on importe. Tu vois, quand on parle, je vais mettre bien épais sur. Quand on parle de Syrie, quand on parle de Palestine, quand on parle de tout ce qui se passe ailleurs, d'Irak, d'Afghanistan, on dit vous importez. Les conflits en France.
Mais l'Ukraine.
Non, mais, excuse-moi.
La vraie différence,
c'est ça, c'est pas là quand même, quoi.
L'Ukraine, c'est l'Europe, enfin.
Oui, mais ça a des conséquences.
Jean-Baptiste, attends.
Ça a des conséquences aussi.
Attends, Jean-Baptiste.
L'Ukraine, c'est le continent européen.
Le terrorisme, on l'hérite d'où?
Attends, Jean-Baptiste.
L'Ukraine, c'est le continent européen.
Il y a
toute une partie. T'as une classe politique ukrainienne qui était tournée vers l'Europe, qui demande son adhésion à l'Union européenne. T'as une partie qui est très pro-Europe. Et t'as effectivement une partie à l'est qui est plutôt russophone tournée vers la Russie. Enfin, on parle pas de la Russie. La Russie est pas pro-européenne. Il n'y a pas la proximité ni géographique, ni culturelle, ni politique qu'on a avec les Ukrainiens. Enfin, il faut aller en Ukraine.
Non, mais.
Alors, attends, on va conclure
avec. Conséquences dans nos vies, t'as raison.
On va conclure avec Sébastien. Et je remercie Gérald d'avoir été avec nous. Sébastien, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, Sébastien. Alors, team oui ou team non pour l'emploi du terme de guerre?
Non.
Alors, expliquez-nous pourquoi.
Moi je trouve on a un gouvernement qui que ce soit avec le Covid et maintenant avec la crise énergétique, qui est uniquement sur des termes pour faire entre guillemets pour faire le buzz. Sauf que à côté de ça, on a un gouvernement qui est complètement schizophrène. Alors moi je le vois, je suis taxi de profession. On nous impose de passer notamment à l'électrique parce que c'est la technologie de demain, et en même temps on nous demande de baisser le chauffage d'un degré. Donc moi, il faut juste qu'on m'explique, en baissant le chauffage d'un degré, et si tout le monde se met à charger sa bagnole la nuit, où est l'économie? Voilà. Donc, et c'est des contradictions surtout. On veut charger nos bagnoles, mais on a fermé des centrales nucléaires, on a la moitié de nos centrales qui tournent en France. Enfin, je veux dire, c'est tout et son contraire du voilà, on dit blanc le lundi et
voir
le mercredi.
Alors Sébastien, réponse de Jean-Baptiste à ce qui est la critique de Sébastien.
En fait, il y a deux choses différentes. Il y a effectivement, on est dans un moment où on a objectivement besoin de sortir des énergies fossiles et donc d'électrifier pas mal d'activités, d'électrifier le chauffage, d'électrifier les véhicules. Et en même temps, on a une crise sur la production énergétique électrique dans notre pays. Et on en arrive à un paradoxe où c'est maintenant nous qui importons de l'électricité carbonée d'Allemagne. Et on exporte du gaz. Vraiment.
Le paradoxe, il peut nous pousser à payer plus cher notre batterie d'électricité qu'un plein de carburant. Ça va être compliqué,
c'est le paradoxe du monde.
Je suis novice. Je suis novice, on fait quoi des batteries des voitures électriques après?
On les recycle.
Recyclable.
On les recycle.
On s'y recycle aujourd'hui.
C'est
un autre
problème.
D'ailleurs,
le problème, ça va être de les charger cet hiver quand même.
Ça, c'est vrai.
Y
compris la Californie aujourd'hui.
La Californie a. Et qu'on va avoir nos chauffages en route, etc. Ben moi, il faut qu'on m'explique comment on fait.
Non, mais là, on est dans un moment exceptionnel où on a la moitié du parc nucléaire qui est à l'arrêt pour raison de maintenance ou autre. Et donc, dans un moment où à la fois on a tout le parc qui fonctionne et où on réinvestit dans le nucléaire, on est en capacité à la fois de chauffer les gens, de faire la transition vers le véhicule électrique.
Mais
là, on est dans un moment effectivement où c'est contradictoire.
On a aussi plein de freins dans le développement du solaire. Chaque fois qu'il y a une éolienne qui se monte, il y a un comité contre l'éolienne. Enfin, on est aussi très paradoxal sur le fait que
et on a trop
si
de normes,
on était en guerre, on serait dans une économie de guerre et on mettrait en place, on mettrait mais en
on
place.
On est en démocratie, Didier.
Non mais on met en place.
Oui, mais tu vois,
et on est en démocratie,
donné,
Didier.
À un moment dans le
donné,
sud,
tous les comités à la con qui vont se monter à chaque fois qu'il y aura une éolienne devant leur nez. Et ben,
donc
si on est en guerre,
les éoliennes, il faut imposer les éoliennes partout.
Non mais
je te pose la question.
Moi aussi, je me la pose la question. On est en guerre ou on n'est pas en guerre?
Mais moi, je pense que c'est tout
pour produire de l'électricité.
On est en démocratie. On veut que les gens.
C'est fini, merci beaucoup. Les Chinois ont monté la
merci, non, c'est fini. Merci, c'est fini, Kaouter. Merci à Sébastien d'avoir été avec nous.
On a perdu le match.
On regarde, je pense qu'effectivement, la cause était entendue assez rapidement. Le président de la République a-t-il raison d'employer le terme de guerre à propos de la crise énergétique?
Je pense qu'il répond plus sur ses comptes contre Macron.
Non à 83%.
Quelle excuse.